Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres aujourd'hui. La Chambre des députés vote un texte condamnant l'annexion russe de la Crimée. Le parti civique démocrate ODS dépose une plainte constitutionnelle contre l'inculpation de Petr Nečas. Et enfin, début des célébrations à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de l'écrivain Bohumil Hrabal. La Chambre des députés a voté ce mardi un texte condamnant l'annexion russe de la Crimée, considérant qu'il s'agissait d'une violation du droit international. Seuls 16 parlementaires du Parti communiste et un du mouvement de l'Aube de la démocratie directe ont voté contre cette position. Les députés ont également approuvé une mention de soutien à la collaboration entre l'UE et l'OTAN pour résoudre la crise politique que traverse l'Ukraine. En revanche, d'autres propositions ont été rejetées, notamment celles visant à renforcer les dépenses tchèques en matière de défense et celles soutenant la prise de sanctions économiques à l'égard de la Russie. Le gouvernement ne prévoit pas de venir en aide à l'heure actuelle aux Tchèques de l'oblast de Volhynie, dont certains d'entre eux avaient formulé la demande de rejoindre le pays de leurs ancêtres au début du mois de mars. C'est le ministre des Affaires étrangères tchèque, Lubomír Zaorálek, qui l'a fait savoir après réunion du Conseil de sécurité tchèque ce lundi. La mission diplomatique tchèque, qui s'était rendue à Jytomyr, une ville de l'Ukraine occidentale, n'aurait pas détecté de motif de sécurité pouvant justifier cette aide. Le parti civique démocrate ODS a déposé une plainte ce mardi auprès de la Cour constitutionnelle pour protester contre l'inculpation de son ancien leader et ex-premier ministre Petr Nečas. Cette plainte a été signée par 27 parlementaires issus de l'ODS, mais également par le parti conservateur Top 09 qui participait à la coalition gouvernementale dirigée par M. Nečas, laquelle a été contrainte à la démission en juin 2013 après qu'a éclaté une nouvelle affaire de corruption. Sa directrice de cabinet de l'époque, Yana Nadiova, devenue depuis Madame Nečasova, sa femme, avait en effet été arrêtée étant suspectée d'avoir conduit des écoutes illégales. Petr Nečas est lui mis en cause dans un scandale parallèle pour avoir offert des postes lucratifs dans des entreprises publiques à 3 députés ODS. En échange, ceux-ci auraient accepté de démissionner de leur mandat afin qu'une loi dite de stabilisation financière, à laquelle ils étaient opposés, puisse être adopté. De la littérature à présent, les célébrations à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de l'écrivain Bohumil Hrabal ont débuté ce mardi dans la ville morave de Brno où il a vu le jour. Au programme figure la projection de films tirés de ses œuvres et de documentaires sur sa vie, des lectures publiques ou des représentations théâtrales. Les festivités devraient culminer vendredi, le jour précis de cet anniversaire, avec une fête de rue devant la maison de la famille Hrabal. L'écrivain né en mars 1914 et décédé en février 1997 est l'auteur de nombreux romans ayant marqué la littérature tchèque de la deuxième moitié du XXe siècle. Du football maintenant, après les violences survenues ce week-end entre supporters du Baník Ostrava et du Sparta Prague, des mesures de sécurité renforcées seront prises pour la rencontre de vendredi prochain qui opposera le Bohemians Prague au club d'Ostrava. Les places seront vendues uniquement dans une boutique du stade des Bohemians Prague et les acheteurs devront fournir leur nom et leur date de naissance. Le Baník Ostrava doit prendre en charge la vente des tickets pour le secteur visiteur. Par ailleurs, ce match comptant pour la 22e journée du championnat tchèque, la Gambrinus Liga, sera important dans l'optique du maintien pour les deux clubs, lesquels pointent aux deux dernières places avec 18 points chacun. On termine avec la météo. Mercredi, c'est le retour du soleil un peu parti en République tchèque qui est attendu, sauf en Bohême du Sud où le ciel reste couvert. Le mercure n'explose pas pour autant puisque les températures maximales vont de 7 à 12 degrés. On nous fêtons ce mercredi les Emmanuel. Bonnes fêtes à eux. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qui était présenté comme parfois par Pierre Ménian. Je vous souhaite une agréable écoute en compagnie de Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Pierre pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Au sommaire de l'actualité en République tchèque, comme ailleurs dans l'Union, les élections européennes approchent à grands pas en République tchèque. D'ores et déjà, nombreux sont ceux à redouter un fort taux d'abstention Du coup, le président de la République, Miloš Zeman, a présenté un nouveau projet déjà appliqué dans certains pays, celui du vote obligatoire. Une proposition qui n'a cependant pas recueilli un fort soutien au gouvernement, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Il sera ensuite question de violence dans les stades de football après les graves incidents du week-end dernier. Et puis la seconde moitié de cette émission sera réservée à la rubrique Panorama. Comme souvent le mardi, on retrouvera le député des Français de l'étranger, Pierre-Yves Le Borgne. À l'approche des élections européennes, l'idée de réinstaurer une participation obligatoire aux élections a été dépoussiérée lundi par le président de la République, Miloš Zeman. Les réactions de la part du gouvernement n'ont cependant pas tardé, comme nous l'explique Denisa Tomanova.
Dans un entretien accordé à l'organisation non gouvernementale Evropské hodnoty, valeurs européennes, Miloš Zeman a évoqué la possible instauration d'une participation obligatoire aux élections, essentiellement pour remédier au fort taux d'abstention des derniers scrutins. En pratique, cela signifierait que l'électeur tchèque aurait le choix entre se rendre aux urnes ou payer, dans le cas contraire, une amende de 5000 couronnes, environ 185 euros. L'abstention élevée aux élections européennes est un problème auquel sont confrontés la plupart des pays membres de l'UE. Si le taux de participation au niveau national dépasse souvent les 50%, lors des dernières élections au Parlement européen, les Tchèques n'avaient participé qu'à hauteur de 28,2%. À ce sujet, le président de la République a déclaré.
Une faible participation aux élections mène à des contestations relatives à la représentativité démocratique. Et c'est précisément une participation électorale obligatoire qui peut supprimer ces objections.
Si l'obligation de vote a déjà été mise en place dans plusieurs pays, comme en Belgique, au Luxembourg ou en Australie, elle n'assure toutefois pas nécessairement une stabilité politique. En Belgique, par exemple, la mise en place du dernier gouvernement a duré près d'un an et demi. Les représentants de la plupart des partis politiques ont immédiatement rejeté l'idée du chef de l'État. Pour le Premier ministre tchèque, Bohuslav Sobotka, il est nécessaire de mettre en place d'autres moyens afin que les citoyens s'intéressent davantage à la politique. Bohuslav Sobotka.
Il est tout d'abord important que la politique ne dégoûte pas les citoyens tchèques, mais qu'au contraire, elle les attire afin qu'ils puissent effectuer leurs propres décisions électorales.
En faisant allusion au régime communiste, lequel se vantait d'un taux de participation avoisinant les 100%, car celui qui n'allait pas voter risquait des ennuis, le ministre des Finances et président du mouvement ANO, Andrej Babiš, a rejoint le raisonnement du Premier ministre. Andrej Babiš.
Le fait que les citoyens tchèques soient contraints de se rendre aux urnes, nous l'avons déjà vécu il y a longtemps de cela. Je ne crois donc pas qu'il s'agisse d'une bonne idée. Ce sont les hommes politiques eux-mêmes qui devraient, en quelque sorte, convaincre les gens de se rendre aux urnes à plus grande échelle.
Les sociodémocrates, le parti Top 09, le parti civique démocrate ainsi que le parti communiste ont eux aussi unanimement rejeté cette idée, dans la mesure où le refus de se rendre aux élections constitue également une forme d'opinion électorale. Si Pavel Bielobrádek, le président des chrétiens démocrates, troisième parti de la coalition gouvernementale, s'est dit ouvert à toute discussion sur le sujet, en évoquant notamment l'organisation d'élections sur une durée d'un seul jour afin d'éviter d'éventuelles suspicions de manipulation des bulletins de vote, seul le parti de l'aube de la démocratie directe s'est prononcé en faveur de cette mesure. Son leader, Tomio Okamura, a précisé pourquoi.
Une participation obligatoire aux élections pourrait représenter la réalité la plus démocratique dans la mesure où la représentation politique apprendrait enfin quelles sont les véritables aspirations de tous les citoyens.
Le chef de l'État a néanmoins reconnu que cette participation obligatoire ne serait très probablement pas instaurée à court terme. Miloš Zeman.
Actuellement, j'ai 70 ans. Je vais mourir à l'âge de 85 ans environ. Alors je crois bien que les discussions sérieuses à ce sujet reprendront dans une quinzaine d'années.
Mmh. Si le vote obligatoire avait été instauré sous la Première République tchécoslovaque, pour le politologue Tomáš Jelínek, la scène politique tchèque ne risque pas de le remettre en place. Il ne s'agirait à l'heure actuelle que d'une obsession personnelle du chef de l'État, laquelle ne parviendra pas toujours, selon Tomáš Jelínek, à surgir au sein des hauts rangs décisionnels, et ce notamment en raison de la définition historique du vote, lequel est devenu, après novembre 1989, un des nombreux droits des citoyens tchèques.
Le dernier week-end de football en République tchèque a été marqué par de graves incidents causés par les supporters à la mi-temps du match entre le Baník Ostrava et le Sparta de Prague, comptant pour la 21e journée du championnat. Ce n'est cependant pas la première fois que les hooligans occupent le devant de l'écran. Du coup, les autorités souhaitent réagir en adoptant une nouvelle législation pour lutter plus efficacement contre la violence dans les stades. À l'échelle tchèque, un Baník Ostrava Sparta de Prague équivaut à un Marseille-Paris Saint-Germain en France. Rarement un sommet de beaux jeux, mais toujours un sommet de bêtises. L'éternelle rivalité entre la province et la capitale, entre Ostrava la noire, Ostrava la populaire et Prague la hautaine, Prague la privilégiée, Prague qui devrait sa richesse au travail des ouvriers et mineurs d'Ostrava. Même quand l'écart sportif entre les deux clubs ressemble à un gouffre, comme cela était le cas avant la rencontre de samedi avec le Baník bon dernier et le Sparta confortable leader, Baník Sparta reste pour les supporters une des affiches les plus excitantes que propose la Gambrinus Liga. Sièges arrachés, fumigènes et pétards lancés, charges des forces de l'ordre dans les tribunes, coups de matraque, crânes rasés ou visages cagoulés, hurlant insultes et chants racistes. Deuxième mi-temps retardé d'une vingtaine de minutes par l'arbitre avant de reprendre dans la confusion, ce énième Baník Sparta n'a pas dérogé à l'histoire de ces dernières années. Violence, vandalisme et haine ont prévalu sur tout le reste, et tant pis pour les papas qui avaient emmené leur fiston. Comme souvent dans la réaction plus que dans l'action, les dirigeants du football tchèque ont rapidement manifesté leur ras-le-bol d'un fléau, le hooliganisme toujours bien vivant en République tchèque. Dès lundi, responsables de la fédération, du gouvernement ou encore du comité olympique tchèque se sont donc réunis pour réfléchir à une nouvelle législation permettant de lutter plus efficacement contre la violence.
Avant cela, il nous faudrait d'abord investir dans la sécurité de nos stades, dont certains ne sont plus adaptés, et faire en sorte qu'ils soient plus accueillants. C'est un investissement indispensable mais rentable à plus long terme, avec des affluences plus importantes.
Président de la Fédération tchèque de football, Miroslav Pelta a été la cible de nombreuses critiques ces derniers jours. Lui comme d'autres se dit néanmoins partisan de l'adoption d'un système à la hollandaise ou à la belge, là où l'identité des supporters est inscrite dans une base de données. Un système relativement onéreux qui permet cependant aux clubs d'empêcher l'accès à leur stade des éléments jugés trop violents, récidivistes ou ayant déjà fait l'objet de mesures judiciaires. Par ailleurs, la nouvelle loi souhaitée permettrait à la police d'être présente dans les stades. À l'heure actuelle, les policiers doivent attendre que l'ordre leur en soit donné pour intervenir. Le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Marcel Hladek, souhaite que cela change.
Nous voulons effectivement discuter avec le ministre de l'Intérieur de la présence de la police dans les stades pour les matchs classés à risque. Si cela avait été le cas à Ostrava ce week-end, les débordements dont nous avons été témoins ne se seraient très probablement pas produits.
En attendant l'éventuelle adoption de cette législation, les clubs eux-mêmes pourraient grandement contribuer à améliorer la situation, comme le reconnaît le ministre Hladek.
La législation en vigueur n'est pas appliquée. C'est pourquoi j'appelle tous les organisateurs de matchs de football à faire preuve de moins de tolérance. Je comprends que les clubs aient besoin de remplir leur stade, mais je pense qu'il vaut mieux se passer de 500 hooligans pour ensuite accueillir 3000 spectateurs de plus qui viennent au football par plaisir et non pas pour se battre.
Le prochain match, considéré à risque de la Gambrinus Liga, opposera ce week-end les Bohemians de Prague à Ostrava. Et pour ce nouveau rendez-vous avec un club de la capitale, la fédération envisage d'interdire le déplacement des supporters du Baník, sans doute pas la plus mauvaise solution parmi toutes celles envisagées. Voilà, c'est la fin de ces faits et événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Comme chaque mardi, on retrouve maintenant la rubrique Panorama. Au début du mois de mars, Pierre-Yves Leborgne, le premier député socialiste de la 7e circonscription des Français de l'étranger, vaste espace européen dont fait partie la République tchèque, effectuait une visite à Prague. À cette occasion, Pierre-Yves Leborgne avait accepté de répondre aux questions de Radio Prague, questions qui portaient notamment sur cette innovation que constitue l'élection de parlementaires représentant les Français de l'étranger. Alors que les socialistes viennent de subir un cinglant désaveu lors du premier tour des élections municipales, la conversation avait également porté sur la prochaine échéance électorale importante de cette année 2014, les élections européennes, des élections qui se dérouleront du 22 au 25 mai dans les 28 États membres de l'Union européenne. Voici un extrait de cet entretien que Pierre-Yves Leborgne a accordé à Pierre Maignan.
Panorama.
Panorama.
En 2012, vous avez été élu assez largement avec une étiquette du Parti Socialiste Europe Écologie Les Verts. Comment vous expliquez cette large victoire? Est-ce qu'il y a au niveau de la sociologie électorale de cette large circonscription, est-ce qu'il y a un profil de l'électeur, j'ai envie de dire?
C'est très difficile à dire. Dans la victoire de 2012, la mienne ici, mais celle d'autres députés, et puis celle de François Hollande, il y avait une dynamique politique qui, à l'évidence, n'est plus la même aujourd'hui. Et je pense qu'elle jouait en faveur de candidats comme moi qui portaient l'étiquette du Parti Socialiste, qui est mon parti, et aussi d'Europe Écologie Les Verts, desquels je suis proche. Peut-être y a-t-il aussi, dans la sociologie des Français d'Europe centrale, une attente plus particulière sur les sujets touchant aux questions sociales et environnementales. Je m'en étais un peu aperçu en campagne électorale, puisque j'ai fait plus de 50 réunions publiques en 2012, mais... le résultat, c'est vrai, m'avait comblé.
Alors, il y avait quand même un point noir, c'était l'abstention qui a atteint 76%. Comment l'expliquer? Est-ce que les Français à l'étranger se désintéressent de la vie politique en France?
Je crois que dans ce taux d'abstention important, il y avait d'abord une forme de surprise, et pour certains compatriotes, d'incompréhension à l'égard de cette innovation institutionnelle, et même constitutionnelle, qu'avait été la création de 11 sièges des députés des Français de l'étranger, puisque la relation qu'avaient à l'origine les Français de l'étranger avec leurs députés, c'était d'être inscrits dans une commune de France, et soit de s'y rendre, ce qui était assez rare quand on vit loin, ou d'y trouver quelqu'un qui votait par procuration. Et donc l'idée qu'on puisse de l'étranger élire ses propres députés était tellement, tellement originale et nouvelle que beaucoup de gens n'y ont sans doute même pas cru. Et je crois qu'il y a, ça a beaucoup joué. Au-delà, il se peut aussi qu'ait joué un rôle l'idée que l'élection présidentielle ayant conduit à l'élection de François Hollande, les élections législatives étaient d'un moindre enjeu. La grande question sera l'élection de 2017 et le taux de participation de 2017, quel que soit l'élu de 2017.
Alors vous évoquiez cette innovation qui, même ici en Tchéquie, par exemple, quand on montre à des Tchèques le découpage de la carte du monde en différentes circonscriptions, ils sont très étonnés. Quelle homogénéité il y a à cette 7e circonscription qui comprend 16 pays, qui vont des pays des Balkans jusqu'à l'Allemagne. Comment vous concevez cette aire géographique?
Moi, je la conçois comme une aire européenne, avec des sujets qui sont communs. Même si entre l'Allemagne... qui pèse 77% des Français de la circonscription. Et le Monténégro, il peut y avoir de grandes différences. Mais on a en commun d'être sur des espaces européens, de vivre dans des pays européens, pour une majorité d'entre eux déjà dans l'Union européenne, et pour 15 des 16 dans le ressort du Conseil de l'Europe. Donc nous avons des thèmes communs, des sujets communs et des aires d'arbitrage communes. Et je veux voir cette logique-là, cette homogénéité-là, plutôt que simplement le résultat d'un exercice de coup de ciseau, qui certes a aussi existé, mais qui éclipserait la dimension européenne de cette circonscription, de laquelle je me sers aussi, au demeurant. Hein. J'ai beaucoup de sujets qui touchent à l'Europe. Par exemple, en ce moment, un cas de discrimination à la taxation sur les retraites complémentaires françaises en Allemagne. Je travaille en droit européen, j'ai même saisi la Commission européenne, et il est clair que l'identification européenne de cette circonscription y contribue beaucoup.
Alors il y a des échéances électorales qui sont assez importantes, et notamment les élections européennes au mois de mai, qui ont un certain sens pour vous qui êtes député de cette circonscription-là. Comment vous la voyez? Comment vous voyez l'action du Parlement européen et de l'Union européenne en parallèle de celui de la France? Qu'est-ce que vous espérez pour ces élections?
Mais moi j'espère d'abord un taux de participation élevé. Les élections européennes, traditionnellement, sont malheureusement vécues comme des élections de mi-mandat, intermédiaires, avec tous les 5 ans un taux de participation de plus en plus réduit. Alors que la décision européenne, d'une manière ou d'une autre, influence probablement de l'ordre de 70 à 80% de nos décisions dans les parlements nationaux, ce qui vous montre le degré d'imbrication du sujet européen dans la sphère nationale. Et je voudrais que nos compatriotes, y compris à l'étranger, où ils peuvent désormais voter, soit dans le pays de résidence, c'est le cas ici, soit depuis le consulat vers la France, et en l'occurrence la région Île-de-France, participent et fassent entendre leur voix. Ensuite, en termes de résultats aux élections européennes, représentant le PS, j'aimerais une majorité, en tout cas un groupe parlementaire socialiste fort au Parlement européen, afin de pouvoir... Non réorienté, c'est un terme que je n'aime pas, parce que ça veut dire qu'on se serait planté depuis 50 ans, mais rééquilibrer certaines politiques européennes en évitant peut-être d'en faire de trop dans le domaine de l'austérité pour l'austérité, ou en n'abandonnant pas l'ambition industrielle de l'Union européenne, voire même en revendiquant parfois la capacité de se défendre au plan douanier. Après tout, il y a une politique douanière commune de l'Union européenne. Et un tarif douanier commun qui est un instrument utile de politique économique, comme une politique de la concurrence, où souvent, ces 20-30 dernières années, l'Union européenne a été en retrait.
Pourtant, le groupe du Parti socialiste fait justement campagne pour cette réorientation et contre les politiques d'austérité en Europe, alors que François Hollande mène une politique d'austérité en France.
Non, François Hollande ne mène pas une politique d'austérité, il mène une politique de rigueur, un peu différent. C'est un peu différent, les termes ont un sens pour moi. Une politique d'austérité, pour moi, c'est le Portugal, par exemple, où vous avez vraiment rien, malheureusement. Une économie qui tourne à vide et qui part toujours en soustraction. Non, le président de la République mène une politique de rigueur, de rééquilibrage des comptes publics, courageuse, parce que c'est pas facile de réduire les dépenses, les déficits et l'endettement. Ça amène des choix douloureux. Il n'a d'ailleurs pas besoin de l'Europe pour la mener. Il peut aussi choisir tout seul de la mener, ce qu'il a fait. Mais ces politiques de rigueur et de gestion saine de nos finances publiques déséquilibrées pour la plupart des pays ne doit pas s'interdire à l'échelle de l'Union européenne un effort en faveur de la consommation intérieure. C'est l'échelon pertinent d'une politique de demande. Nous sommes dans une économie ouverte. Je le dis à beaucoup de mes amis du PS qui critiquent le pacte de responsabilité, dont je suis moi partisan. Dans une économie ouverte, vous ne pouvez pas relancer par la consommation, parce que dans l'état de délabrement de l'industrie française, on va enrichir nos concurrents et pas en bénéficier nous-mêmes. Ce qui explique pourquoi on mène une politique de l'offre visant à faire renaître des éléments pans de l'industrie française, à réduire le coût du travail, à provoquer un choc de compétitivité, de simplification. Je suis membre de la mission de l'Assemblée nationale sur la simplification administrative. Tout ça, c'est pour faciliter la création en tant que tel. Mais on ne peut pas s'interdire à l'échelle européenne, et je reviens au tarif douanier commun, d'avoir une politique de relance d'un minimum de consommation intérieure et en même temps éventuellement de se protéger contre une concurrence qu'on peut estimer déloyale. Je viens du secteur des panneaux solaires. C'est un secteur qui a connu un boom extraordinaire jusqu'à la fin de la première décennie du XXIe siècle et ensuite une descente aux enfers vertigineuse. Pourquoi ? en raison de la concurrence de panneaux chinois, dont il s'avère aujourd'hui, 3 ans à peu près après la crise, qu'elle obéissait à une logique de dumping financier, social et environnemental. Mais l'Union a mis 2 ans à accepter même l'idée de se défendre. Et quand elle est passée à l'acte et elle a voté des droits anti-dumping, à peu près tout le monde était mort sur le marché. Donc si on n'est pas plus réactif, à quoi ça sert d'avoir des instruments de défense? Donc moi je voudrais imaginer aussi que cette réflexion que l'on a à l'approche du débat européen touche à notre volonté de nous protéger si nécessaire. Je suis en rien protectionniste, mais et je reconnais la volonté qu'il y a à commercer et le travail qui est mené par l'OMC dans ce cadre. Mais on doit pouvoir se défendre contre l'injustice.
Mais ces politiques de l'offre, ce n'étaient pas des politiques qui sont menées depuis le milieu des années 80 et qui nous ont menés justement à cette crise présente?
Non. Moi, je vais vous répondre de manière très brutale. Est-ce que le président Sarkozy menait une politique de l'offre? Non. Le président Sarkozy, de même que le deuxième mandat de Jacques Chirac, pendant 10 ans, ont gaspillé des marges budgétaires et à un certain moment une croissance qu'aujourd'hui nous n'avons malheureusement plus, pour mettre à l'endroit l'économie française. On a perdu en 10 ans, entre 2002 et 2012, 750 000 emplois dans l'industrie manufacturière en France. Imaginez. Et depuis, malheureusement, 2012, encore davantage. Quasi 1 million d'emplois. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Deuxième signe, encore plus spontané, le déséquilibre du commerce extérieur, qui atteint des niveaux inégalés. Ça veut dire que l'offre française n'est pas en adéquation avec la demande internationale.
Voilà, c'était donc Pierre-Yves Le Borgne, le député représentant des Français de l'étranger. Pierre-Yves Le Borgne répondait aux questions d'un autre Pierre, le nôtre, Pierre Maignan. Et c'est avec lui que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute de nos programmes. Ahoy.